Ville Le Bihan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venu nous voir à Bordeaux. Alors, vous venez pour nous présenter donc cet ouvrage qui s'appelle Amour propre, qui est, alors moi, après lecture, j'ai relu le titre autrement.
Oui.
J'ai eu l'impression d'un grand nettoyage sur le thème de l'amour.
De l'amour et de la maternité, oui.
Oui. Ouais,
oui. Et de l'amour, oui, parce qu'en fait, j'ai pris ce titre amour propre. J'ai voulu le tordre, en fait, parce que amour propre, normalement, c'est ça parle de narcissisme. Ça parle de soi. Là, j'ai amour propre, pour moi, c'est un amour qui est sans les liens du sang. C'est-à-dire qu'en fait, je n'aime pas cette idée qu'on soit obligé d'aimer les gens de sa famille. Je pense qu'il y a des personnes dans sa famille qu'on n'aime pas. Et pour moi, c'est important qu'on arrive à avoir cette objectivité. On l'a avec les autres personnes et j'aimerais qu'on puisse l'avoir aussi avec sa propre famille parce qu'on a, peu de temps.
On aimerait, mais...
C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Donc, en fait, amour propre, c'est ça. Et aussi par rapport à ses enfants, en fait. Cette objectivité aussi par rapport à l'amour qu'on peut porter à ses enfants.
Alors, vous plantez le décor, en fait, d'un personnage qui s'appelle Julia.
Oui.
Qui est d'origine italienne par sa maman.
Oui.
Sa maman qu'elle ne connaît pas.
Non, qu'il a abandonnée presque à la naissance.
Mais dont elle garde un lien à travers deux éléments très forts. Le premier, c'est qu'elle est italienne, sa maman est italienne. Et le deuxième, c'est que sa maman était absolument inconditionnellement fan de l'auteur Curzio Malaparte.
Oui. Alors en fait, elle a laissé derrière elle un livre de Curzio Malaparte qui s'appelle La peau, qui est un livre phénoménal pour moi, ça a été une révélation. Je l'ai lu quand j'avais 16 ans et qui parle donc de la libération de Naples par les Américains. Mais avec une vision quand même un peu, enfin très honnête en fait, très sincère de cette armée qui arrive, qui remplace l'armée occupante, mais qui a finalement qui fait à peu près les mêmes, pas les mêmes exactions, mais qui a une attitude qui est assez répréhensible. Et elle laisse ce livre derrière elle, en italien, évidemment. Et donc, elle transmet, finalement, peut-être à son insu, on ne le saura jamais, cet amour pour cet écrivain italien, Curzio Malaparte. Voilà.
La peau étant le roman, ou peut-être un des romans les plus connus en Europe.
Avec Caput.
Oui, avec Caput aussi.
Oui, avec Caput aussi.
Et alors, donc, Julia a élevé ses enfants seule.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des enfants... Elle a fait des enfants presque pour prouver, pour se prouver à elle-même et pour prouver au fantôme de sa mère qu'on peut avoir une famille et rester. Puis malheureusement, elle divorce et elle s'occupe avec détermination, fougue et énormément d'amour de ses enfants, de ses trois enfants qu'elle a, mais elle est seule pour s'en occuper. Donc son père l'a élevée seule et elle se retrouve seule à élever ses trois enfants. Et là...
Elle a trois enfants, donc elle a une fille et des jumeaux.
Oui, pas des jumeaux, ce sont des garçons qui ont un an de différence, mais ils passent le bac la même année, puisqu'il y en a un qui a redoublé.
Voilà. Qui ont un rapport de gémilité.
Presque de gémilité, voilà. Presque, oui.
Et alors, en fait, le livre vraiment démarre sur cette période de la vie où cette femme se retrouve avec des enfants qui sont maintenant des jeunes adultes.
Oui.
Et où elle a passé 20 ans de sa vie complètement consacrée à l'éducation de ses enfants.
Oui, oui.
Et là, se posent donc mille questions sur lesquelles, alors, elle n'a quand même aucune hésitation à vraiment réciter au vitriol les contraintes que représente la maternité, la difficulté, le poids qui pèse en permanence sur les mères.
Oui, c'est-à-dire que dès toute petite, on nous met une poussette et des biberons et des poupées dans les bras. Et on nous dit, écoute, voilà, tu vas falloir que tu te maries. Et puis quand on est marié, il faut que tu fasses un enfant. Et puis quand on en fait un, il faudrait peut-être faire un petit frère. Puis si on a le malheur de dire, mais c'est fatigant et je suis pas, j'ai pas été bien préparée. Et comment on fait? Et qu'est-ce qu'on... on nous dit, si t'es pas contente, pourquoi tu fais des enfants? Alors en fait, on fait abstraction totalement de toute la pression qu'il y a eu avant. Puis après, débrouille-toi. Et on a cette image de la maternité, alors le ventre qui s'arrondit, l'accouchement merveilleux avec une vague qui arrive, c'est instinctif, l'instinct maternel, c'est ce fameux instinct maternel. Et elle l'attend, cet instinct maternel, elle l'attend. Et elle ne l'a pas, il n'y a pas ce rendez-vous Il y a quelque chose, évidemment, qui se passe. Elle est attendrie par ses enfants. Elle va s'en occuper, elle va les protéger, elle va les élever avec énormément d'amour, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui a raconté. Voilà. Et donc, elle est déçue, mais elle fait son travail jusqu'aux 18 ans de son dernier, en se disant c'est un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire qu'à 18 ans, bon, je vais pouvoir retrouver ma liberté, je vais pouvoir redevenir une femme. Mais les pères, c'est pareil, peuvent se poser la même question, parce qu'ils ont le même fardeau. Enfin, ce ne sont pas que les femmes, c'est le problème de la maternité, paternité, c'est le problème de cette inadéquation entre ce qu'on nous a vendu et la réalité. Et donc, à 18 ans, son dernier à 18 ans, et elle pense qu'il va aller à l'université, puisqu'ils sont brillants, patatras, les deux lui annoncent qu'ils veulent faire une année de ce qu'on appelle de césure, qui est très à la mode, mais pas une année de césure à voyager dans le monde entier, une année de césure à rester à la maison. Et là, c'est elle qui craque. Voilà.
Enfin. Alors, on a envie de dire, enfin.
Oui.
Parce qu'en réalité, alors, vous dites, c'est le même contexte pour les hommes. Oui et non, quand même, parce que dans votre livre, qui est vraiment une peinture au vitriol de ce que peut incarner la contrainte absolue et puis cette valeur morale indiscutable,
oui,
qui fait qu'on doit,
oui,
aimer son métier de parent.
Oui, et le problème, c'est que de nos jours, enfin moi, j'ai une éducation qui était totalement différente, c'est-à-dire que moi, mes deux parents travaillaient, puis je me suis débrouillée. Ils n'étaient pas tout le temps là pour m'accompagner partout. C'est-à-dire qu'on se transforme, ma génération, a voulu en fait offrir à nos enfants, on a voulu offrir ce que nous on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'on a voulu en fait les protéger de beaucoup de choses. Seul problème, c'est qu'on les a protégés de choses qui nous avaient construites. Et donc on se retrouve maintenant, et c'est ce que je décris aussi, cette génération d'enfants, d'adolescents, qui finalement ont presque une allergie à l'effort. Puisqu'on leur a prémâché beaucoup de choses, puisqu'on les a aidés à faire beaucoup de choses, et c'était parti d'un très bon sentiment, eh bien, on se retrouve avec des enfants qui ne savent plus faire grand-chose tout seuls. Et puis, il y a eu évidemment l'incursion d'Internet, de tous les réseaux sociaux, dont je parle aussi, qui évite malheureusement aux enfants de s'ennuyer et donc de rêver. Et ça, c'est...
Et de partager aussi, puisqu'en fait, elle se retrouve, quand ses enfants sont grands, déconnectés d'enfants qui, eux, le sont trop.
Voilà, complètement. Ils appartiennent à des groupes sociaux, sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression de s'engager en mettant un petit émoticône un peu énervé. Ils ont l'impression de... En fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une sorte d'algorithme qui fait que ils sont tous regroupés parce qu'ils ont tous les mêmes centres d'intérêt, ils ont tous les mêmes préoccupations.
Oui.
Et donc, il n'y a plus de débat. Voilà. Et c'est ça que je regrette, c'est que je regardais la dernière fois, il y avait une émission de Michel Pollack, Droit de réponse, et je me disais, ce serait plus possible maintenant d'avoir ce type d'émission, puisque tout est lissé et tout est politiquement correct. Il n'y a maintenant plus qu'une parole. On dit que la parole est libérée, mais elle est libérée à condition qu'on donne la bonne parole. Voilà. Si on n'est pas dans les cales, c'est un problème. Et ce livre n'est pas dans les cales.
Et puis elle est virtuelle aussi. C'est-à-dire, oui, que ces enfants vivent par procuration.
Par procuration,
beaucoup
tout à
depuis
fait.
Leur canapé.
Oui, 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 complètement. Et c'est ça dont elle a peur. C'est ça qui lui fait peur et c'est pour ça qu'elle part. Parce qu'elle se projette dans une vie où ses enfants, finalement, elle continuera à remplir le frigo de canettes de coca et de ramasser les vêtements en rentrant à la maison. Donc,
Alors ça pose aussi, sous ces questions, j'ai envie de dire officielles, il y a beaucoup d'autres questions. Il y a le fait aussi de la place de la femme qui se retrouve avec ses deux garçons qui finalement ne bougent pas, avec une époque qui a quand même évolué sur des rapports hommes-femmes, mais finalement,
oui,
elle se retrouve dans quelque chose de très archaïque.
Oui, c'est-à-dire que ce que j'explique aussi, c'est qu'on a tendance, nous femmes, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, avant d'écrire ce livre, évidemment, j'ai recueilli des témoignages et j'ai lu beaucoup de livres sur la question. On se retrouve à élever nos filles comme des Amazones et nos garçons, parce qu'on sait ce que nous, on a vécu et ce contre quoi on doit se battre tous les jours. Et en fait, nos garçons, on les a chouchoutés. Et c'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt... Je suis une féministe qui aime les hommes. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que oui, il y a des combats. L'égalité de salaire, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres, il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas des salauds. Voilà. Donc, mais il n'empêche que quand on éduque nos enfants, ben, beaucoup de femmes ont tendance à surprotéger leurs garçons par rapport à leurs filles.
Et à préparer leurs filles dans le même temps.
Au combat.
Au combat.
Voilà.
Ouais. Au combat et puis aussi à une forme de souffrance, parce que dans votre livre, il est quand même aussi question de la maternité, de la violence et de enfin quand même les accouchements, les grossesses. Il est quand même aussi question beaucoup du corps.
Oui, bien sûr, parce que nous, on nous vend la merveille de la maternité et de la grossesse. C'est formidable d'avoir un petit enfant qui bouge en soi, mais pour moi, ça a été alien. C'est-à-dire que réellement, j'avais peur. J'avais peur, je ne savais pas ce qui allait arriver. Donc, en fait, ce livre, ce n'est pas pour dire « ne faites pas d'enfants ». C'est pour dire « je comprends celles qui n'en veulent pas, il faut les entendre, et elles n'ont pas besoin de se justifier. Je ne comprends pas qu'on ne dise pas assez aux jeunes femmes que bah, ce n'est pas tout rose. Et je ne comprends pas que pour celles qui veulent adopter, elles soient obligées de passer des tests absolument incroyables, qu'on leur donne des questionnaires, qu'on vienne visiter la maison. Mais c'est une, c'est un traitement qui est inégal. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est presque de la discrimination. À partir du moment où une femme ne peut pas avoir d'enfant, on va lui poser toutes ces questions. Mais une qui peut avoir des enfants, alors qu'elle dit qu'elle n'est pour rien, ben on va rien lui demander. On va pas lui demander pourquoi est-ce que tu fais des enfants.
Votre livre s'inscrit finalement dans cette volonté aujourd'hui des femmes, jeunes filles.
Oui, je pense que c'est un des derniers tabous de la condition féminine. Et je pense qu'il faut lever le voile, parce qu'on n'est plus dans cette période où il fallait repeupler. On n'est pas à la fin d'une guerre mondiale. On n'a pas besoin de repeupler la France ou le monde. Et je pense qu'il est temps de faire un... Moi, je vois beaucoup d'enfants malheureux. Et je vois beaucoup de femmes qui se mettent une pression de dingue et qui n'y arrivent pas. Donc réfléchissons, ou au moins soyons informés pour ne pas avoir l'impression d'être en échec. C'est-à-dire le problème, c'est que nous, on culpabilise énormément, parce que comme on nous a vendu du rêve, on se dit, ben, je dois être la seule à ne pas y arriver. Voilà. Et finalement, ben non, on est beaucoup dans ce cas-là, mais on n'ose pas en parler.
Alors, la mère doit quand même être parfaite. Enfin, d'une façon générale, elle est toujours coupable de quelque chose.
Oui.
Elle s'occupe trop des enfants, pas assez d'elle, pas assez de ses enfants. Elle rit trop, elle n'est pas assez sévère. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous posez quand même cette question qui est que la femme est en perpétuel combat.
Oui, tout le temps, tout le temps. Elle est en perpétuel... Enfin, par rapport à elle-même et aux objectifs, parce que je trouve que les femmes mettent la barre très très haut. Mais on a une pression sociale qui met la barre très très haut. On nous demande d'être une businesswoman absolument incroyable, on nous demande d'être une amante incroyable et on nous demande d'être une mère parfaite. Mais le problème dans la maternité, c'est qu'on est jugé sur nos enfants. Et Julia, ce qu'elle a, elle, c'est qu'elle n'est jamais rentrée dans ce jeu-là. Inconsciemment, elle est rentrée, mais elle a toujours privilégié la joie. Elle a toujours privilégié le jeu. Elle a toujours privilégié le bonheur de ses enfants. Et elle pensait qu'en transmettant ce message-là, ses enfants seraient différents. Mais non, parce que inconsciemment et dans les coulisses, ses enfants ont été élevés aussi avec une personne invisible. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, elle découvre des enfants qu'elle ne connaît pas, des jeunes qu'elle ne connaît pas.
Ce rire et cette façon d'enjoliver aussi le quotidien, c'est aussi une façon de ne pas sombrer complètement dans l'aliénation et dans, tout d'un coup, le constat de se dire « je n'aime pas cette vie ».
Ah oui, complètement. C'est aussi une facilité, c'est aussi plus facile. Moi, je me suis beaucoup inspirée de mon éducation pour mes enfants. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai fait faire des certificats médicaux par SOS Médecins parce que mes enfants avaient un concours de flûte le lendemain et que j'en avais marre qu'ils s'entraînent avec la flûte dans l'appartement. Donc, voilà, ça, c'est arrivé. Et c'est vrai que j'ai toujours mis beaucoup de dérision, beaucoup d'humour dans mon éducation. Et c'est vrai que... Ben, c'est une claque quand on a un résultat comme ça, alors qu'on s'est dit, ben non, moi j'ai pas fait comme les autres.
Avec tous les témoignages que vous avez recueillis, les échanges que vous avez eus, globalement, c'est la déception qui revient ?
Globalement, oui. Globalement, oui, mais j'ai, en même temps, et je trouve ça formidable, j'ai des femmes autour de moi qui ont adoré être enceintes, qui ont adoré leurs enfants, toutes les périodes de leurs enfants, et qui ont ce syndrome du nid vide, c'est-à-dire que les enfants vont partir, et elles sont désespérées et déprimées. Mais je pense que ça correspond aussi avec des problèmes de quand les enfants s'en vont, on a approche de la cinquantaine. Et quand on approche de la cinquantaine, il y a aussi la ménopause qui arrive. Et ça, c'est compliqué pour une femme. C'est-à-dire qu'on a une double peine. On ne sert plus à rien, en fait, en gros.
Mais dans les deux cas de figure, ce qu'on voit bien dans votre livre et qui est vraiment assez fort, c'est que les femmes qui ont aimé leur maternité se retrouvent avec un grand vide quand les enfants s'en vont, et celles qui n'ont pas aimé leur maternité ont finalement nié ce qu'elles étaient pendant 20 ans. Vous faites un parallèle qui est extrêmement drôle entre la prison et la maternité, en disant finalement c'est plus facile de rentrer en prison parce qu'on va suivre des codes sans réfléchir. Ce qui est compliqué, c'est d'en sortir.
Exactement.
Ouais, donc, dans les deux cas, en fait, il n'y a pas d'issue.
Non, mais alors, c'est pas moi, ce que je. Enfin, ce livre est quand même un grand message d'amour, mais un grand message d'amour pour les enfants, pour les femmes. C'est-à-dire que oui, c'est dramatique, c'est dur. Moi, j'ai eu un père il n'y a pas longtemps au téléphone qui craque complètement. Un père. C'est pas une mère qui craque parce qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer ses trois enfants. Donc, ce que je dis simplement, c'est on se calme, il faut les aimer, il faut les écouter, il faut les respecter, et respectons-nous, aimons-nous aussi. C'est un peu ça. C'est pas tout est dramatique, tout est noir. Non, moi j'ai eu des moments merveilleux avec mes enfants et j'en ai encore maintenant. Mais parlons, expliquons-leur que c'est compliqué aussi de notre côté. Et puis peut-être ayons un petit peu plus de rigueur par rapport à notre éducation. Voilà, un petit peu plus de rigueur. Donnons-leur le sens de l'effort. N'oublions pas que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été notre chemin pour arriver à ce qu'on est maintenant. Pourquoi leur faciliter la tâche autant ?
Et d'ailleurs, vous posez des questions qui sont vraiment intrigantes. Par exemple, vous dites à un moment donné que finalement, Julia, elle n'aime pas la femme qu'elle est devenue. Et donc, par conséquent, comment ses enfants pourraient l'aimer, puisqu'elle-même ne s'aime plus.
Dans le même temps,
vous dites aussi que finalement... Cette géographie de famille fait que on n'a plus le temps de s'interroger, de se parler, parce qu'on est toujours occupé, les adultes aussi.
Oui, bien sûr.
Donc ce lien, en fait, s'étiole parce que il est passé.
Mais parce qu'on ne se voit plus, on est toujours avec des petits écrans devant la. Par exemple, une anecdote, hier, Facebook et Instagram sont tombés en panne, et donc tout le monde s'est retrouvé sur Twitter. Parce que il y avait un besoin de connexion, quoi. Il y a un moment, il y avait un besoin de connexion. Et c'est quand même dommage. Enfin, je trouve ça triste. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire le parallèle avec Curzio Malaparte, qui lui est un écrivain qui est quand même qui a été assez controversé de par ses engagements politiques, mais aussi de par sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui était qui n'en avait rien à faire des autres et qui finalement il disait le pire des jugements, la pire des critiques, c'est le silence, parce qu'il aimait qu'on parle de lui en bien ou en mal. Du moment qu'on parlait de lui, c'était ce qui l'intéressait.
Alors là, on arrive vraiment en fait au cœur du livre, et c'est là où en fait votre livre a une saveur tout à fait inédite. C'est que vous faites un parallèle entre cette position de mère de famille et cet auteur très controversé, assez dépressif, on peut le dire, avec une idée vraiment extraordinaire, qui est que finalement dans l'histoire, ce qu'on oublie essentiellement, c'est le contexte.
Oui, complètement.
C'est-à-dire que on prend une décision d'une façon ou d'une autre.
Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a un croisement et on prend une route et on est jugé sur ce choix et sur notre ressenti de ce choix. Et Curzio Malaparte, donc c'était à 16 ans, l'Italie était neutre au moment de la Première Guerre mondiale, enfin la première année de la Première Guerre mondiale. Lui était d'origine allemande, puisque son père est allemand. Il s'est engagé, il a menti sur son âge, il s'est engagé dans les nouvelles légions garibaldiennes et il a combattu pour libérer la France contre le pays de son père. Donc c'était quand même un engagement qui était très romantique, très pacifiste. Et puis après, eh ben, il est rentré en Italie. Il y avait la peur des Rouges, donc la peur du Parti communiste et ça. Et donc, il s'est engagé, il a pris sa carte du Parti fasciste. Et tout en ayant sa carte du Parti fasciste, il a commencé à critiquer Mussolini dans des articles terribles dans le Corriere della Sera. Il a publié des livres contre le fascisme. Il a rendu sa carte en 1931. Et là, il a publié un livre qui lui a valu d'être emprisonné sous les conseils d'Hitler, puisqu'il critiquait Hitler, Mussolini, Lénine, emprisonné et exilé sur une île, l'île de Lipari. Et à la fin de sa vie, donc après, ensuite, il a aidé les Américains pour le débarquement, puisqu'il avait rendu sa carte du Parti fasciste, donc il est passé du côté des Alliés au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'il décrit, donc, dans la peau, la libération de Naples. Et puis, il a fini sa vie communiste. Donc, on est passé par tous les extrêmes. Mais ce que tout le monde a retenu, ce n'est pas le communiste, ce n'est pas le pacifiste, ce n'est pas celui qui a critiqué Mussolini, c'est le fasciste. Et on oublie que c'est quelqu'un qui a été très sincère dans tous ses engagements. Je ne cautionne absolument pas le fait qu'il ait été fasciste. Mais retenir de lui, de ne retenir que ça de lui, c'est nier tout son talent, c'est nier tous ses autres engagements. Par exemple, on a encensé Roberto Rossellini. Roberto Rossellini, il a fait 3 films de propagande pour Mussolini. C'était un ami de Mussolini, même après les lois raciales, donc même après les lois antisémites. Et on l'a porté au nu. Luigi Pirandello a eu le prix Nobel alors qu'il avait la carte du Parti fasciste. On ne le dit pas. Dino Buzzati, pareil, a fait des chroniques en mettant en exergue le courage de la marine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on a plein d'exemples comme ça d'écrivains italiens et même français qui ont eu quand même une attitude plutôt beaucoup plus critiquable que Curzio Malaparte pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a occulté. On a oublié, on passe ça sous silence, on ne parle que de leur littérature. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la littérature et du style de Curzio Malaparte. C'est un romantique, c'est un baroque, c'est un flamboyant, c'est un homme extraordinaire. Et il a construit cette maison à Capri, au Capo Masulo, et cette maison a été construite comme une cellule. On la voit de l'extérieur, donc on peut tout voir de l'extérieur, mais personne ne rentre à l'intérieur et personne n'a le droit d'y aller. Moi, j'ai eu la chance d'y aller pendant une semaine, puisque mon propos et mon projet de livre a convaincu les propriétaires de la maison, mais c'est très compliqué de savoir qui sont les propriétaires, et surtout, personne n'y a accès. Donc j'ai eu la chance de vivre une semaine de rêve, toute
comment
seule.
Comment vous l'avez vécu, cette semaine ?
Moi, j'écris toujours dans le bruit, et là, ça a été... c'était lourd, c'était pesant. J'y suis allée en novembre. Alors je me suis baignée quand même à l'endroit, parce que je suis bretonne, donc moi une eau à 14 degrés ça me fait pas peur. Je me suis baignée à l'endroit où, parce que c'est une villa qui est connue surtout pour le film Le Mépris, oui, de Jean-Luc Godard. Et donc Brigitte Bardot se baignait nue en bas des escaliers. Moi j'ai gardé mon maillot, mais je me suis baignée au même endroit.
Et puis pas la même saison.
Et pas la même saison, donc c'est en novembre. J'ai vécu avec réellement, c'est-à-dire son âme est là, rien n'a bougé. Sa chambre, c'est un, je dirais pas un mausolée, mais c'est vraiment, c'est un nid d'aigle avec toutes ses. J'ai vu des photos de lui, j'ai son journal, ses vêtements. Enfin, c'est incroyable, c'est presque un musée. Et j'ai eu la chance donc de vivre à Capri pendant une semaine comme ça. C'était formidable.
Vous avez un lien charnel avec l'Italie. Votre façon de décrire Naples, Capri, cette maison, cette baignade est incroyablement sensorielle. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation que vous êtes intégré. On est dans un film de Fellini ou d'Ettore Scola, déjà. Merci. En fait. Mm-hmm. C'est une ambiance incroyablement visuelle, très filmée et incroyablement charnelle.
Oui, parce que, en fait, moi, un de mes écrivains préférés, c'est Eri De Luca. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à l'Italie. En commençant à lire, bon, évidemment, les Amorantes, Alberto Moravia, enfin bon, Primo Levi, il y a beaucoup d'Italiens que enfin, j'aime beaucoup. Et puis j'adorais le cinéma italien des années 70, qui me faisait beaucoup rire. Mais il y a une sorte de drame derrière ce rire, derrière cette, enfin, le tempérament de l'Italien, c'est il parle, mais derrière il y a un drame intérieur. C'est la Commedia dell'arte, et en même temps Naples, pour moi, c'est une scène de théâtre dramatique. Et je me suis vraiment, j'ai eu vraiment l'impression de plonger, quand je suis arrivée à Naples, de plonger réellement dans cette ville dans laquelle était Malaparte, dans laquelle est allé Sartre, dans laquelle beaucoup d'écrivains sont allés. Et c'est une ville qui est à fleur de peau. Et ça m'a vraiment, vraiment inspirée, oui.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'en fait, en plongeant dans cette ambiance napolitaine, avec des débordements émotionnels très denses, et avec une représentation de la femme qui va être finalement la mama italienne, ouais, qui vous attend, qui vous accompagne, qui chouchoute ce personnage quand elle est très malade, on est vraiment dans une sorte de huis clos sur ce questionnement de la mère, de la femme, de la transmission, et aussi par l'écriture, puisque en fait le lien, ça va être ce personnage qui est cet auteur qui écrit, qui raconte et qui est incompris comme votre personnage principal.
Oui, mais comme quoi un livre peut bouleverser une vie. Enfin, je trouve, hein, on peut être vraiment bouleversé par un livre et avoir envie d'aller au bout, de connaître la vie. Là, c'est autre chose, puisque c'est une question de filiation. Et d'ailleurs, en parlant de filiation, le père est formidable. Le père est un personnage qui, plus je l'écrivais, plus je me disais, mais quel beau personnage. Parce qu'il n'est pas seulement question de femme. Ce père, il a élevé cette femme toute seule, et puis il a respecté le choix, il a élevé sa fille toute seule, il a respecté le choix de sa femme de partir et de ne pas la chercher. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et puis Maria, donc cette femme qui est à Capri, c'est la personne qui est en... Alors, on apprendra petit à petit ses liens avec Malaparte, mais c'est une femme qui est là et qui garde les écrits de Malaparte et la maison. Et cette femme existe aussi. Donc, je me suis inspirée de... Enfin, c'est pas elle, hein, elle est beaucoup plus jeune, elle n'a rien à voir, mais je me suis inspirée un peu de ce personnage et de son rôle.
C'est incroyable, parce que c'est très maternant.
Oui, tout
aussi,
à fait.
Et comme vous le dites à juste titre, le personnage du père de Giulia, alors, est une déclaration d'amour aux hommes.
Ah oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je suis féministe qui aime les hommes.
Ah donc, oui, non, mais c'est vraiment un très beau livre sur le genre aussi.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'hommes qui ont lu ce livre et qui l'ont aimé parce que justement, je descends pas la gente masculine. Non, c'est intéressant parce que j'ai aussi voulu décrire Capri d'une autre façon, parce qu'on a l'impression que Capri, bon, c'est l'île des amoureux, c'est une île qui est dramatique. Et il y a un grand passage aussi sur Belle-Île en mer, donc ce sont deux îles, ça part d'une île, ça va jusqu'à l'autre île, et ce sont des îles rêches, quoi, avec vraiment avec des rochers à pic, et j'aime bien des tempêtes.
Oui, vous décrivez beaucoup de scènes, et puis surtout, il y a cette histoire de lien avec le pont, au sens propre comme au sens figuré, puisque le père de Giulia, en fait,
est architecte
et dessine des ponts.
C'est-à-dire qu'au début, il n'en dessinait pas, mais quand sa femme est partie de Belle-Île, il a décidé de construire des ponts pour pouvoir relier les gens, parce qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir lui courir derrière, puisqu'elle a pris un bateau. Et donc, il dit, s'il y aurait eu un pont, j'aurais pu peut-être la rattraper, au moins lui dire au revoir. Et donc, depuis, il ne fait que des ponts. Voilà.
Donc, il y a beaucoup de symbolique.
Oui.
Comment ont réagi vos enfants?
Alors, je leur ai lu, à ce moment où vous me demandiez ça, j'ai fait ma signature à Paris, ma première signature à Paris. Et j'avais deux de mes enfants qui étaient là, puisque mon troisième est en Suisse. Et il y en a un qui a pris la parole, et j'étais très, très émue, parce qu'ils ne l'ont pas lu. Et je leur ai lu, par contre, les passages qui les concernent, enfin, qui concernent les ados et qui concernent les enfants. Et ils ont adoré. Ils ont trouvé ça très drôle, ils ont trouvé ça très juste. Donc, non, ils me soutiennent, ils n'ont pas du tout été traumatisés, non.
Non, alors, mon propos n'était pas celui-là, mais plutôt, en fait, finalement, d'avoir là posé dans ce livre des vrais questionnements de lien.
Oui, mais je crois que ce sont pas réellement des questionnements, parce que entre nous, on a toujours beaucoup, beaucoup parlé. On continue à beaucoup parler. Et c'est vrai qu'on a des liens très, très forts. Pas des liens d'amitié, parce que j'ai toujours refusé ça. Oui. Mais des liens très... Oui, une intimité qui est presque... Non, enfin, faut peut-être pas exagérer, mais pas amniotique, mais on est très très scindés, parce qu'en fait moi j'ai divorcé, donc j'ai élevé mes enfants, même si je suis remariée, j'ai vraiment élevé mes enfants seule. Et c'est très compliqué, hein, très très compliqué. Et en même temps, vous savez, quand on se retrouve le soir au dîner avec ses trois enfants, on parle de l'école, on parle de choses qui normalement ne devraient peut-être pas être des conversations avec les parents forcément. Mais je me suis mise un peu en retrait par rapport à eux, puisque c'est eux qui parlaient entre eux et moi j'écoutais. Et j'ai toujours ce rôle d'écoute avec mes enfants. Et donc on parle énormément. Et ils savaient ils ont toujours su que j'avais du mal, toujours su avec ce rôle de mère. J'ai toujours été un peu en marge par rapport aux mamans. À la sortie de l'école, et à un moment je raconte une anecdote, c'est vrai que je faisais les sorties avec les maîtresses, et puis à un moment ça m'a voilà, donc j'ai laissé passer, et puis un soir il y avait un dîner à l'école, et puis il y a le curé qui vient, le curé le prêtre qui faisait le catéchisme des enfants dans l'école, qui vient à la table, et puis il était habillé tout en noir, et puis il me regarde et il me fait alors vos enfants s'appellent tac 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 tac, et je croyais que c'était un magicien qu'ils avaient engagé pour la soirée. Donc j'étais absolument pas au fait, je connaissais pas ce voilà. Et donc ça, je raconte des anecdotes où je passais pas pour une mauvaise mère, mais pour quelqu'un d'un peu foufou quoi.
Oui, mais pas loin. École. Mais en fait, nous passons, beaucoup de femmes passent pour des mauvaises mères quand on dit que attendre sur un banc au parc, c'est quand même très très long et pas du tout amusant. Que pour fumer, on doit se cacher.
Oui.
Toutes les anecdotes.
Une pression de dingue.
Ah oui.
On se met une pression de dingue. Et c'est pour ça que ce livre, je voulais l'écrire aussi, parce que c'est des choses que j'ai échangées. Et puis là aussi, ça vient d'un. Il y a eu une étude qui a été faite en Israël. Parce qu'on parle de la maman italienne, mais il y a la mère juive aussi. Ça, ce sont deux énormes poids sociaux. Et donc, il y a une Israélienne qui a fait une étude en Israël en demandant, qui s'appelle Regretting Motherhood, donc regretter la maternité. Et elle a été hallucinée de voir toutes ces femmes, toutes ces mères israéliennes, et c'est presque de là qu'est parti mon livre, dire oui, en effet, ce serait à refaire, je ne le referais pas. Et alors là, c'est un tabou, parce que là, pour le coup, c'est un pays qui veut se développer, donc qui veut faire des enfants, et ça l'a scotché. Quand elle a publié cette étude, elle a reçu d'Allemagne, du Canada, et de tous les pays, mais surtout d'Allemagne et du Canada, des témoignages hallucinant qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est-à-dire qu'on peut aimer ses enfants, mais regretter, on a le droit, puisqu'on a le droit de tout regretter, puisqu'on peut divorcer, on peut déménager, on peut quitter un travail. La seule chose qu'on ne puisse pas quitter, et heureusement, ce sont nos enfants, puisqu'ils n'ont jamais demandé à être là, et qu'on a une énorme responsabilité par rapport à eux. Mais ça ne peut pas nous empêcher, quand même, de pouvoir dire « si j'avais su, peut-être que je n'aurais pas fait. » On a le droit de le dire. On n'est pas des sorcières pour ça. Je pense qu'on a le droit de le dire. Ça veut dire qu'on, dans ces cas-là, on a besoin d'aide. On a besoin d'être écouté. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être guidé. On n'a pas toutes des mères qui peuvent nous guider. Parfois, la grand-mère est absente.
C'est cette étude qui a résonné pour vous et qui
vous a donné envie d'écrire. Et le livre d'Elisabeth Badinter qui s'appelle « Le conflit ».
Oui.
Vraiment, ça a été vraiment des. Et je les ai trouvés. Bon, j'avais envie d'écrire sur ce thème, mais j'ai trouvé au fil de mes recherches ces deux choses, ces deux écrits, et ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait vraiment en parler. Oui.
Et depuis que vous l'avez écrit,
oui,
vous avez des témoignages.
Ah, des témoignages incroyables, mais incroyables. Alors, pour l'instant, ce sont des blogueuses, des blogueurs qui ont des mots, des lectrices, des lecteurs qui ont des mots que je ne pouvais même pas imaginer. Qu'on puisse avoir sur ce texte. Ils sont très émus. Alors ce matin, j'ai même eu un tweet de Nikos Aliagas. Oui. Qui dit que c'est un roman fantastique sur la filiation. Donc là, j'étais très contente. Je vais avoir des articles là, qui vont sortir bientôt. Je suis étonnée par... parce que c'est un sujet casse-gueule quand même. Hein.
C'est un sujet casse-gueule, mais c'est un sujet éminemment de société.
Oui. Qui fait réfléchir. Moi, oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est le débat.
Oui,
on peut ne pas être d'accord avec tout ce que je viens de dire, mais l'essentiel, c'est de... Moi, je suis prête à écouter, et j'ai écouté... Parce qu'avant, j'en ai parlé à des dîners, on m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais si.
Donc ça existe quand même encore.
Oui, il y a des gens qui disent, non, on peut pas en parler de ça, c'est pas possible. Et je dis, si, on peut en parler. J'ai pas envie de vous convaincre, mais je veux simplement qu'on puisse avoir cette liberté de parole.
Dans vos recherches,
oui.
Il a été question aussi pour vous de vous pencher sur le nombre croissant de mères seules qui élèvent leurs enfants, qui sont quand même 2 millions en France aujourd'hui, dont 85% sont des femmes. Sur les 2 millions de foyers monoparentaux, 85% de femmes. En fermant votre livre, on se pose la question sur la justice. Est-ce que la justice est assez moderne aujourd'hui ? Est-ce qu'on pose la question à une femme quand il y a un divorce en lui disant « Alors et vous, est-ce que vous voulez la garde à plein temps ?» En fait, on en est où de cette question-là ?
On part du principe que de toute façon, les enfants sont mieux avec la mère, déjà.
Quel que soit l'âge
Quel que soit l'âge, oui et non. Enfin, il y a un moment, moi je pensais à un moment que les enfants pouvaient décider par eux-mêmes. Mais c'est très compliqué. Il y a la garde des enfants... qui est donnée soit à la mère, soit au père, mais il faut vraiment que la mère ait fait quelque chose de dramatique. Mais aucune mère, enfin c'est très compliqué pour une mère de dire « je ne veux pas, je veux juste un week-end sur deux, la moitié des vacances », parce qu'on passe encore pour une fois pour une mauvaise mère, alors que le père est tout à fait capable d'élever son enfant. Non, je pense que si on a autant de mariages qui ne fonctionnent pas, c'est aussi parce qu'on nous a raconté... des choses qui n'étaient pas vraies. C'est compliqué un mariage, c'est compliqué de faire durer un couple, c'est compliqué. Et ça, il faut aussi, il y a des efforts à faire. C'est pas comme ça.
Et Curzio Malaparte a lui-même une situation de famille singulière.
C'est-à-dire que lui, sa mère déjà l'a rejetée à sa naissance et l'a mise en nourrice. Donc lui aussi, il a eu une absence de mère pendant ses 6 premières années. Ensuite, il n'a jamais voulu avoir d'enfant. Il était d'une grande fratrie, hein, il avait des sœurs et des frères, il ne voulait pas d'enfants. Et puis le seul amour de sa vie, qui était une fille Agnelli, enfin une femme qui était mariée à Agnelli, est morte dans un accident de la route alors qu'elle venait le rejoindre enfin, qu'elle avait quitté son mari. Donc il a eu quand même c'est assez dramatique, et il n'a jamais réussi à aimer. Il n'a jamais réussi à s'engager, il n'a jamais réussi à rester, et il n'a jamais réussi à exprimer son amour, à part aux chiens. Il adorait les chiens. Et donc, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il aboyait pour prévenir les chiens qu'il était là. Donc souvent, on lui a dit, mais il faut que vous partiez parce qu'on n'aboie pas ici. Quoi. Donc voilà.
Monsieur
on n'aboie pas. Et donc, il y a la tombe de Phébo qui est importante dans ce livre.
Oui,
il y a un chat... et un chien qui sont très importants dans ce
très
livre.
Important.
Et donc Phébo, ce chien qu'il avait eu dans l'île de Lipari, il est enterré à la sortie de la Villa Malaparte. C'est une sorte de petite stèle. Et à chaque fois qu'il sortait, il aboyait devant la stèle.
Oui, voilà. Votre description est très émouvante. Hein. Mm-hmm. Et est-ce que Julien, aussi finalement, avec ce syndrome de l'abandon de cette maman qui est partie, au fond d'elle-même, même inconsciemment, se disait qu'en élevant ses enfants, sa chair, c'était au moins un endroit où elle serait toujours aimée. Est-ce que la déception, elle vient aussi de ça ?
En fait, il n'est pas question que ses enfants ne l'aiment pas. C'est plutôt... je crois qu'elle avait fait ça justement par défi, qu'elle a eu ses enfants par défi, un peu par accident aussi.
Oui.
Elle a eu le premier, voilà. Le deuxième, elle a voulu faire un frère ou une sœur parce qu'elle voulait une fratrie. Et puis le troisième, c'est ce qu'on appelle très élégamment le retour de couche.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'elle en a eu 3. Mais je crois que la question de savoir si ses enfants l'aiment ou pas, c'est
peut-être de lui témoigner.
De lui témoigner, voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend rien d'eux. Elle dit pas que ce sont des ingrats. Et d'ailleurs, quand on élève des enfants, il ne faut rien attendre d'eux, parce qu'il n'y a pas plus ingrat que des enfants. Mais c'est parce que c'est nos valeurs à nous. C'est notre échelle de valeurs. Eux, ils n'ont pas du tout ça. Eux, c'est normal. Voilà, qu'on les amène tous les jours à l'école, c'est normal. Le jour où on leur dit, bah non, t'es assez grand pour marcher, ah bah. Donc voilà, donc c'est. Et puis. Donc en fait, je pense que oui, elle a l'impression qu'en faisant cette année de césure, c'est une attaque personnelle par rapport à tous les efforts qu'elle a fait. Parce qu'elle attend trop de ses enfants. Et d'ailleurs, je cite un moment Madame de Stael, oui. Qui parle de sa fille en disant, on lui dit, votre fille est formidable. Et elle dit, mais c'est rien par rapport à ce qu'elle aurait pu faire. C'est-à-dire que vraiment, ouais. On a. Moi, je trouve que vouloir forcément que ces enfants réussissent dans les études, c'est aussi faire abstraction de leur désir à eux, c'est faire abstraction de peut-être de leur goût. Il y a des très beaux métiers qui ne passent pas forcément par les études. Je le sais, parce que moi, je suis mariée à un cuisinier qui n'a pas le bac. Donc, il y a des métiers qu'on peut faire sans forcément faire des études, mais encore faut-il laisser les enfants développer des goûts et les écouter.
Et en Julia, ce qu'on voit bien aussi, c'est sa difficulté ou son impossibilité à construire du lien affectif pour elle.
Oui, parce qu'elle tombe toujours, elle est toujours en recherche d'un amour impossible. C'est-à-dire que quand on n'a pas de maman, qu'on a raté son premier mariage, c'est compliqué d'aimer quoi. Son père, il est avec une femme là, mais on voit bien qu'il y a pas. Il vit aussi lui avec le fantôme de cette mère. Donc elle a un rapport à l'amour très compliqué. Puis en fait, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle crée du besoin. C'est-à-dire qu'en fait, elle va et puis elle essaie de lui arranger son appartement, de ranger ses choses, alors qu'elle le fait même pas chez elle.
Elle est maternelle.
Elle est maternelle. Elle essaye de créer un besoin.
Elle est amoureuse un peu de Giorgio Malaparte, ou en tout cas.
Oui, je pense. Voilà. Oui. Mais on peut pas s'empêcher d'être amoureuse de cet homme-là.
Est-ce que vous avez fait lire Giorgio Malaparte à vos enfants?
Non, non. Mais ils sont pas de grands lecteurs, hein. Donc ils n'ont lu aucun de mes livres. Hein. Non, ils sont pas de grands lecteurs. Mais je l'ai fait lire à beaucoup d'amis qui ont découvert Malaparte. Et qui ont découvert un auteur formidable, mais non.
Vous saviez que vous, un jour ou l'autre, vous écririez sur Giorgio Malaparte ?
Oui, j'en étais persuadée. Je ne savais pas que j'allais écrire, déjà, à la base. Hein, oui. Mon premier roman est sorti en 2014. J'écrivais, mais je ne savais pas que j'allais être publiée. Mais quand j'ai. Oui, je me suis dit un jour, il faudrait que j'intègre ce personnage. Oui.
Pourquoi ?
Parce que ça a été une révélation pour moi à 16 ans et que toutes les émotions de lecture que j'ai eues avec lui. Parce que c'est un iconoclaste et que je pense quelque part être un petit peu iconoclaste aussi.
Voilà. Merci Sylvie Lebihan.
Merci.
Merci à vous.
Merci.